Chapitre 30. Selon les impôts, Fabrice Chevalier n'habitait plus à Villejuif, mais à Gentilly, quelques kilomètres plus au nord. Il vivait au dernier étage d'un immeuble sans âme, face au périphérique, coincé entre un garage et un magasin d'alimentation aux vitres si grises qui achetaient de la nourriture relevée du suicide. Alentour, le bruit infernal de la circulation, les odeurs d'échappement écrasées par une lourde pluie qui plombait davantage l'atmosphère sous les câbles électriques et téléphoniques. Ici, les piétons arpentaient les trottoirs, le visage fermé, s'entraînaient, non pas parce que le quartier craignait, mais parce qu'il n'y avait rien à voir, rien à espérer. Charcot attendait avec Lucie dans la voiture sur le boulevard. Cette fois, il avait sollicité la brigade d'intervention et les hommes allaient arriver d'un instant à l'autre. Il restait 2 heures avant l'expiration de l'ultimatum. Lucie raccrocha son téléphone. Nicolas et Audra ont été relayés. Ils rentrent au bastion. Charcot fit grise mine. Je crois que le punisseur ne viendra même pas au combat de chien. Il est comme nous, collé à son écran à attendre la suite. Peut-être qu'il se sent menacé lui aussi par le manifeste et les révélations que l'ange s'apprête à faire. Lucie posa ses 2 mains à plat sur son visage et opéra de vifs mouvements de friction afin de se redonner de l'énergie. « Il s'est passé quoi dans le box avec Chapelier tout à l'heure ?»«
Comment ça ?»«
J'ai vu la façon dont tu l'as regardé. Ce n'était pas un regard de flic. »«
Tu crois que c'est le moment de parler de ça ?»
« Peut-être bien, oui. » Il secoua la tête de dépit.
« Dommage que tu le prennes de cette façon. »«
Comment je dois le prendre ?» Charcot serra les lèvres. Il aurait aimé se retenir, et c'était sans doute ce qu'il aurait fait en temps normal. Pas cette fois. Pas ce soir.
« Tu te rappelles une cave sordide, il y a 2 ans ?»«
Franck, on ne doit... »«
Toi qui venais de buter un homme. » Et moi en train de trafiquer la scène de crime et de charcuter le cadavre, les vêtements couverts de sang. Tout ça pour te protéger. Nous protéger, tous, avec les enfants. Ce regard que j'ai adressé à Laetitia Chapelier contemplait un miroir qui me renvoyait mon propre reflet. Parce que toi, comme moi, on aurait pu se retrouver à la place de cette femme, du mauvais côté de la table. La différence, c'est que nous, on est libre, et qu'elle, elle risque de passer une bonne partie du reste de sa vie derrière les barreaux.
Les images affluèrent par flash. La bagarre dans la cave, le coup de feu qui part, ses mains en sang et l'homme qui s'effondre. On s'était juré de ne plus jamais parler de ça, quelles que soient les circonstances. On se l'était juré, Franck.
Tu voulais savoir ? Tu sais. On se permet de juger des gens alors qu'on est exactement comme eux.
On n'est pas comme eux, on...
On est comme eux. Et maintenant, lâche-moi.
Il tourna la tête vers la vitre. Lucie se recroquevilla dans son coin. Mieux valait éviter que ça s'envenime. Cette interminable journée qui avait succédé à une nuit tout aussi longue devait prendre fin. Ou ils allaient devenir dingues. À 18h50, 6 hommes de la BRI s'engagèrent en file indienne dans la cage d'escalier en ruine de l'immeuble. Les semelles des chaussures d'intervention grinçaient à peine sur le béton des marches. Cette masse noire se déplaçait comme un coup de vent vif et glacé. Lucie suivait son homme et fermait la marche. Y avait-il une chance infime pour que l'ange mène la danse dans son appartement? Elle en doutait. Mais elle refusait de perdre espoir, convaincue que chaque nouveau pas dans cet escalier les rapprochait des prisonniers. Les hommes se positionnèrent au bout d'un couloir où une moquette couleur de pisse se décrochait des murs. Ils avaient progressé dans l'obscurité car les lampes des paliers ne fonctionnaient plus. Charcot tiqua lorsqu'il sentit une odeur infecte à l'étage, celle de la putréfaction. Pas de sommation. 2 coups de bélier et il fonçait à l'intérieur dans un roulement de voix graves, de cris, investissant les pièces les unes après les autres. Le tour du cloaque fut effectué en 10 secondes. Personne. Charcot et Lucie traversèrent un court hall pour atteindre le minuscule salon attenant à la cuisine, plongé dans le noir à cause du volet baissé. Des mouches bourdonnaient en masse. Quelqu'un alluma. L'endroit était certes habitable, mais insalubre. Une ampoule agonisait au bout d'un câble. Les prises sortaient des murs, des fissures dans le plâtre zébraient le plafond. Un unique meuble en kit, un canapé pliant en toile beige tachée, le carrelage du plan de travail de la cuisine qui se décollait. Lucie baissa la fermeture de son blouson. Elle crevait de chaud. Combien faisait-il dans cet appartement ? 25 degrés ? L'insupportable odeur provenait de l'autre côté du mur. Le lit reposait dans l'angle pour laisser place sur le plancher à une immense pièce de viande posée à même la moquette. Une carcasse de porc, sortie d'une boucherie, qui devait peser une cinquantaine de kilos. Putréfiée à un point tel qu'elle baignait dans du liquide brunâtre, sorte de mayonnaise abandonnée au soleil et bougeait toute seule à cause des mouches. L'une d'elles, retournée sur le dos, effectuait des mouvements vains pour parvenir à s'envoler. À proximité, un oscilloscope, une antenne, du matériel électronique et des feuilles représentant des plans de circuits intégrés. Alors que les membres de la BRI libéraient l'espace, Charcot s'efforça de respirer par la bouche. Partout sur les murs de la chambre, des feuilles punaisées, enchevêtrées, superposées. Des photos par centaines. Florence Viseur, Bertrand Lesage, Laetitia Chapelier et même M. G avaient été photographiés de loin ou en gros plan. Il y avait aussi des clichés de bains de foule du président prises du point de vue du public. Le flic s'approcha, lut les notes sur des post-it, sur des impressions en couleur. Des horaires, des adresses, des copies de profils Facebook. Tout y était. Il se tourna vers Lucie, accroupie, une main gantée dans l'ouverture de la carcasse, une autre devant la bouche.
« Qu'est-ce que tu fiches ? » ?»«
J'essaie de comprendre pourquoi des fils partent de ce port. » De la poitrine putréfiée, elle extirpa avec dégoût la pièce de métal, la frotta sur un coin de moquette propre et la leva devant ses yeux. « C'est un pacemaker cardiothex. » Lucie se redressa, l'engin intact au creux de la main. Elle réprima un haut-le-cœur, reprit son souffle. « Je crois que ce taré est allé jusqu'à faire des essais en enfouissant le pacemaker dans une carcasse d'animal. Obsessionnel jusqu'au bout des ongles, » songea Charcot. Lucie scruta l'objet, le retourna et ses sourcils se froncèrent. « Il y a une inscription. » Elle lui montra le pacemaker, intrigué. Sous le numéro de série au feutre noir à pointe fine était noté à la main « Secret Lucas LP 8914P3 ». Charcot fit crisser les poils de son menton. Lucas, le gamin au centre des enjeux de cette histoire de GPA. Que venait faire son nom ici ?
C'est quoi ce délire encore ?
Un nouveau message pour nous, tu crois ? La tête lui tournait. Dans l'urgence, il donna un coup de fil à Pascal et lui transmit l'information. Il fallait essayer de décrypter le message au plus vite. Il raccrocha, retourna vers le mur, pointa alors une photo où M. G parlait devant une foule lors d'une conférence. Le cliché avait été pris depuis l'auditoire, sans doute par l'ange en personne.
« On tient notre M. G. Il est écrit... Grégoire Priester, conférence de Grenoble sur le corps et les technologies, février 2017. Tout y est. Ici son adresse, dans le deuxième arrondissement. Là, on le voit à la sortie d'un club de squash. Et là encore, en train de mettre des cannes à pêche dans sa voiture. »
Il fit trois pas sur la droite, l'œil rivé au cliché.
L'ange les a traqués, étudiés tous. Il les a suivis dans leurs déplacements. Regarde, les horaires, les lieux qu'il fréquente. On est dans sa tête, Lucie. On est dans le cerveau de ce malade qui, du jour de son licenciement, a eu une seule obsession. Tuer Grégoire Priester le mardi 7 novembre 2017 devant nos locaux et déclencher la chaîne d'événements qu'on connaît. Tu imagines le temps et la préparation qu'il a fallu? L'intelligence derrière tout ça? Quel gâchis, bordel!
Il la regarda.
T'as vu un ordinateur? Un téléphone?
Rien.
Va jeter un œil dans le salon.
Charcot observa le lit, s'approcha de la fenêtre qui donnait sur le périphérique saturé. La misère, le désespoir. L'ange s'était sans doute installé dans ce trou à rats pour ne jamais se détourner de son but. Y penser jour et nuit, tracer ses plans avec une précision d'architecte, allonger sur cette moquette effilochée, analyser chaque signal de l'oscilloscope, des heures durant, pour peaufiner ses préparatifs. Il s'approcha d'un pan de mur vierge du côté de la tête de lit et fit glisser ses doigts sur la surface de peinture blanche. Tous ces trous, ces excroissances dans le plâtre. Résigné, il rejoignit Lucie dans le salon. Elle fouillait dans les tiroirs de l'unique meuble.
« Tu ne trouveras rien, » annonça-t-il. « Il y a des trous de punaises sur l'un des pans de mur. Tout a été décroché avec soin. On ne saura pas où il retient Florence et Bertrand, parce qu'il a été suffisamment prudent pour se débarrasser de tous les éléments susceptibles de nous aider. »
Il s'appuya contre le sofa, en pleine réflexion, essuya une goutte de sueur qui perlait sur son front.
« Le jus de la barbaque doit commencer à suinter au plafond du dessous. Lui qui est si prudent, pourquoi n'a-t-il pas mis de bâches plastiques sous la carcasse? T'as senti dans le couloir, un voisin aurait fini par appeler. »
Il chercha du regard le radiateur et alla poser sa main dessus.
« Il est brûlant. »
Comme pour accélérer la décomposition.
Ouais, il voulait qu'on finisse par se pointer au cas où on aurait manqué d'intelligence pour remonter jusqu'à lui par notre enquête, et qu'on découvre le pacemaker.
Il tendit la main. Lucie lui donna l'appareil glissé à l'intérieur d'un mouchoir en papier. Secret Lucas, LP8914P3. Ça pouvait être n'importe quoi.
Le jeu continue, annonça-t-il. Mais cette fois, on n'a pas été à la hauteur, on arrive trop tard. On ne passera pas à l'étape suivante avant la fin de l'ultimatum.
En quelques secondes, Charcot sentit ses forces l'abandonner. Sa charpente de flic commençait à se fissurer.
Ça fait des jours qu'il n'est pas venu entre ces murs, et il ne reviendra pas. Il se planque. Il est peut-être à 500 kilomètres d'ici, dans la cave d'une baraque de location ou au fond d'un entrepôt désaffecté. C'est fini, Lucie.
La flamme au fond de ses yeux s'était éteinte. Il annonça à l'équipe de la BRI, en attente dans le couloir, qu'elle pouvait disposer. Gecko venait aux nouvelles par téléphone. Charcot lui fit un bilan de l'opération et écouta l'autre cracher ses ordres. Oui, une équipe de la scientifique allait venir. Oui, ils allaient se rendre dans la salle de crise parce que le ministre de l'Intérieur et le chef de la PJ voulaient être en direct avec eux au moment où le compte à rebours se terminerait d'ici une heure. Oui, oui, tout ce que vous voulez, patron. Il raccrocha, là, fatigué. Il ne sentait même plus la puanteur de la carcasse et plus rien ne comptait désormais, hormis ces quelques centimètres carrés d'écran de téléphone serré entre ses mains. Il s'assit sur le rebord du canapé et afficha le site de l'ange. « Dans 00h59min26s, ce sera à vous de décider. 1 850 429 connexions. » Parmi celles-ci, sans doute celle de la femme de Bertrand le Sage, et peut-être même Laetitia Chapelier, si on l'autorisait à regarder. Tout le personnel du 36 allait visualiser en direct le drame annoncé, les infirmières dans les hôpitaux, les conducteurs coincés dans les bouchons, les jeunes en cachette au fond de leur chambre, malgré l'interdiction des parents. Tout le monde voulait savoir, et Charcot était certain que même les chaînes de télé étaient branchées sur le site en léger différé. Pour pouvoir couper à temps au cas où. L'audience, encore l'audience. Avec ses hommes, avec Lucie, Audra, Nicolas, Pascal, ils avaient réalisé l'impossible. Mais Charcot se retrouvait désarmé. Il n'y avait plus rien à faire, hormis rentrer vite au 36 et attendre la fin de l'ultimatum. L'avenir de Florence et de Bertrand ne leur appartenait plus. Il ne leur avait jamais appartenu. Lorsque le compte à rebours fut écoulé, deux boutons apparurent sur la page web. L'un sous le cylindre de Florence, l'autre sous celui de Bertrand. Sur chacun d'entre eux était écrit « Cliquez pour me sauver ».